Pronto? Pronto? Et non, ce n'est toujours pas Cédric Canal. C'est Antoine Aiello. Et aujourd'hui, pour ce numéro 73 de Proto Calcio, numéro série C avec, maintenant vous êtes habitué, mon petit friulent préféré, mon petit beignet comme j'aime l'appeler, mon petit Nicolas Wagner. Salut Nico, comment ça va?
Ben, salut Cédric, ça va? Je trouve que plus ça va, plus on dirait Cédric qui te présente là.
Non, mais Cédric, là, il est occupé. Il est en train, pour être honnête, de s'occuper de la Nationale en ce moment. Donc du coup, bah, nous, on fait notre petit numéro mensuel, comme on aime faire. Vous connaissez le principe. Actualité de Série C. Un petit focus sur un grand club évoluant en Série C, un club historique. On essaie toujours, comme vous savez, de vous partager un maximum de choses sur ce podcast. T'es prêt, Nico?
Oui.
Alors, ce groupe A, Mantova poursuit sa marche en avant.
Oui, ils comptent 12 points d'avance sur leur dauphin Padova hein, et Vicenza complète le podium mais totalise déjà un déficit de 20 points sur le leader.
Et d'ailleurs, on voit aussi que c'est toujours assez serré pour les playoffs dans ce groupe.
Ouais, c'est serré puisque jusqu'à la 14e place qui est occupée par le Virtus Verona qui n'a que 3 points de retard sur le 10e Trento. Ça peut encore être qualifié pour les playoffs qui se disputeront en fin de saison.
Et en bas, on a l'Alessandria qui, normalement, quasiment sûr d'ailleurs, je crois que c'est sûr, arithmétiquement parlant, jouera en Série D l'année prochaine.
Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont déjà condamnés et ils descendront d'un étage en fin de saison.
Dans ce groupe B, même constat que le précédent groupe.
Oui, là, c'est Cesena qui survole sa poule avec déjà 11 points d'avance sur Torres. Et 22 points sur la Carrarez.
Et là aussi, il y a une lutte vraiment intense pour intégrer le top 10.
Oui, c'est ça, puisque Rimini, 10e, n'a que 3 points d'avance sur le 14e Entella.
Et on a toujours Olbia et la Ternana qui disputent la lanterne rouge, hein, le bonnet d'âne.
Ouais,
Dans
ça
ce
va jouer
groupe.
entre ces deux équipes pour savoir qui jouera en Série D la saison prochaine.
Dans le groupe C, dans le groupe du Sud, hein, qui me tient particulièrement à cœur, vous le savez tous, chers auditeurs, on a le seul leader, la Juve Stabia, qui file vers la Série B.
Ouais, la Juve Stabia qui là aussi, comme on voit sur les deux précédents groupes, compte 9 points d'avance sur Benevento, son dauphin, et 13 points d'avance sur Avellino.
On a aussi une mauvaise série pour notre petit club de Calabre avec Crotone qui est à 4 défaites sur 5 dans les matchs.
Ouais, ils ont complètement dévissé au classement, puisque passé un moment, ils étaient quand même dans le top 3, top 4, et là ils sont 9e, je crois. Mais il pourrait même sortir de la zone des playoffs si la mauvaise série continue.
Et on a Brindisi qui est condamné aussi.
Ouais, Brindisi déjà condamné à la série D et on a une petite affection pour le club de Catane, mais en ce moment c'est quand même un peu tendu. Ils ont perdu le match à pas perdre contre le premier club de la zone de play-out, Turris, et ils sont plus qu'à 3 points de cette zone rouge. Qui pourraient les emmener éventuellement à faire des barrages pour conserver leur place dans ce groupe C de troisième division.
D'ailleurs, Catane, qui particularité en Italie, on a une Coupe d'Italie des clubs de Serie C. Évidemment, vu que vous avez 60 clubs avec les trois groupes de 20. Catane qui est en finale, qui a perdu le match aller contre Rimini 2-1, qui doit recevoir le match retour le 2 avril au Massimino à Catane, mais qui le fera sans son public parce que les ultras de Catane ont complètement vrillé à Rimini et ont tout détruit. Voilà pour la petite anecdote, pour la petite page abrutie de nos ultras. Et d'ailleurs, petite chose, si Catane n'est pas en play-out, donc maintient son avance qui s'est à minuit avec la défaite ce week-end, serait au play-off parce que, comme Rimini est déjà assuré de jouer les play-offs, c'est un peu comme la Coupe de France, quand vous êtes gagnant qui va en Coupe d'Europe, et ben en Série C, quand le gagnant déjà en play-off, mais du coup, c'est le club qui joue la finale qui va à sa place. Pour les jouer. Donc ce serait quand même dommage pour Catane de perdre l'occasion de jouer ses playoffs. Bon, vous le savez, vous avez l'habitude maintenant en nous écoutant. On aime bien faire un petit focus sur un club historique qui a joué en Serie A ou qui a marqué notre football italien par le passé. Aujourd'hui, Nicolas, on va en Ombrie, on va voir quel club.
On va voir le club de Perugia.
Pérouse en français, du coup, comme ils aiment
Oui.
bien. Non, on dira Pérouse, parce que nous, on est authentique. Voilà.
C'est le Calciovero.
Calciovero. Alors, Perugia, qui a été fondée du coup en 1890 sous le nom de la Società Ginnastica Braccio Fontebraccio. Tu nous expliques?
Ouais, c'est en fait la société Ginnastica Braccio Fortebraccio, parce que c'est le nom qui vient de Braccio da Montone, qui était le chef et le seigneur de la ville au 15e siècle. Et donc, quand les premiers dirigeants ont fondé le club, ils lui ont donné ce nom-là en l'honneur de ce chef et ce seigneur de ville au Moyen Âge.
Il faut attendre en plus les années 30 pour les voir et du coup évoluer en série B. Donc il y a vraiment eu ce petit moment de mise en place, on va dire.
Ouais, au début, c'est plutôt ils jouent au niveau régional. Ça a mis un petit peu de temps à se structurer. Effectivement, faut attendre le début des années 30 pour les voir arriver là pour leur première fois en deuxième division.
Après, on a eu une petite période sympathique parce qu'en 75, du coup, Perugia est promu en Serie A. Il reste 6 saisons et se passe quelque chose d'intéressant.
Ouais, lors de la saison 1978-79, ils atteignent la deuxième position à la lutte pour le titre avec Milan, qui les coiffe au poteau et avec 3 points d'avance. On rappelle qu'à l'époque, la victoire ne comptait que 2 points. Donc, ils étaient à moins de 2 victoires du titre, en fait. Mais ils ont une petite particularité lors de cette saison, puisqu'ils enregistrent 0 défaite. Et ce record d'invincibilité, c'est le premier pour une équipe depuis l'instauration de la poule unique en première division, en fait.
Encore incroyable. Encore maintenant, très peu d'équipes y sont parvenues. Je crois que la dernière équipe à vaincre en Serie A, c'est la Juve de Conte en 2011-2012. Sinon, très compliqué de faire ce sans faute. À la fin des années 90, alors, Serie B, ça végète. À la fin des années 90, il y a Perugia qui retrouve la Serie A, avec une année un peu particulière aussi en 98-99.
Ouais, parce qu'il se qualifie pour la Coupe Intertoto, hein. C'était une coupe qui a disparu maintenant, qui permettait au club qui était classé après les premières compétitions européennes, donc après la Coupe des Champions ou la Champions League à cette époque-là et la Coupe UEFA, de disputer une espèce de coupe estivale pour avoir des tickets supplémentaires et se qualifier en Coupe UEFA à travers ce biais-là. Et donc là, cette année-là, il dispute cette compétition et surtout c'est l'arrivée du japonais Hidetoshi Nagata, que on connaît bien après pour la suite pour avoir évolué sous le maillot de la Roma et qui commence sur les chapeaux de roue son histoire avec Perugia, hein, puisqu'il signe un doublé contre la Juve.
Et en plus, il y a un joueur qui est particulièrement adulé et apprécié en France, qui est également présent en club, dans cette époque-là, un défenseur gaucher.
Oui, c'est ça, un défenseur gaucher qui a eu la particularité d'être buteur en finale de Coupe du Monde, d'avoir permis l'expulsion du meilleur joueur adverse et d'avoir transformé son tir au but et d'être champion du monde 2006. Il s'agit de Marco Materazzi.
Ah là là, un gentleman connu pour ses interventions propres et jamais agressives.
C'est d'ailleurs, on vous suggère d'aller voir une petite compilation de ses meilleurs gestes. J'ai le souvenir d'un échange de fagnons avec Gigi Lentini qui jouait à l'époque au Torino, où Lentini lui jette
Fagnon à la gueule.
le fagnon dans la gueule. Et par contre, après, il a pris cher puisque Materazzi lui a fait un tacle de boucher, les 2 pieds décollés, qui lui arrive limite sur le torse. Et je crois qu'il s'en tire avec juste un carton jaune.
Ah ben, je pense que Materazzi, avec l'époque du VAR, ne pourrait pas jouer.
Non.
Alors, début des 2000, il y a un entraîneur qui est très connu du football italien, Cesc Cosmi. Et avec le fantasque président Gaucci, qui est connu pour ses achats de fous furieux et ses liaisons un peu dangereuses.
Ouais, c'est des liaisons dangereuses et en plus qui était un peu une nomination surprise puisque à l'époque Cercé Cosmi et c'est un parfait inconnu. Il a juste réussi à mener une équipe locale de la série D à la série C1 et en fait cette nomination elle se fait un peu contre les supporters, les tifosi, mais parce que du coup Cosmi il a aucune expérience du haut niveau, mais malgré tout il arrive à tirer le meilleur d'un effectif qui a été composé de 20 joueurs, nouveaux joueurs, à cette intersaison-là, au début des années 2000. C'est le président Gaucci, comme tu dis, qui est assez fantasque, qui a décidé de recruter que des jeunes issus des divisions inférieures, qui étaient complètement inconnus au bataillon. Et ces jeunes-là, ils s'appellent Fabio Grosso, Fabio Liverani, Et c'est des joueurs qui ont émergé grâce à ça. Parce qu'il faut bien connaître et savoir que Perugia, à cette époque-là, n'avait pas beaucoup de moyens. Et donc, c'était obligé de composer leur effectif avec soit des achats, comme on l'a vu, avec un peu, comment dire, anachronique à cette époque-là, parce que les Japonais n'étaient pas super connus pour évoluer à l'étranger hors de leur pays. Mais en tout cas, ils recrutent Nakata, ils recrutent après le Coréen Han Jun-won, ils recrutent le fils Kadhafi. Alors ça fait de la pub, mais en attendant, ils ont réussi à faire une super saison. Et on le verra après, Materazzi marque 12 buts en 2000-2001, un record pour un défenseur central. Et d'ailleurs, cette année-là, est-ce que tu sais qui il devance au classement des buteurs?
J'étais petit, mais vu que je sais que tu aimes bien me chauffer, ça va sûrement être un joueur du Milan. Bon, je pense pas Shevchenko parce qu'il était trop fort à cette époque-là, mais peut-être mon ami Filippo.
Oui, exactement. C'était Filippo Inzaghi qui jouait à l'époque à la Juve et qui n'avait marqué que 11 buts. Et grâce à leur performance, donc que ce soit Materazzi ou Fabio Liverani, ont été convoqués par Giovanni Trapattoni en national, qui était quand même un exploit d'avoir des joueurs de Pérouse en équipe nationale à cette époque-là.
On avait Fabio Grosso qui, après lui, a été sélectionné, mais plus tard quand il jouait à Palerme, mais il était déjà présent, comme on disait, dans cette équipe. Pour revenir sur le fils Kadhafi, donc voilà, petite liaison dangereuse. On sait que fils d'un dictateur de Libye, hein, pour nos plus jeunes auditeurs, qui a aussi d'ailleurs joué un point commun aussi avec toi à Blinez. Bon, il a fait un match dans chaque club, et on a bien compris que c'était des affaires de business et, entre ces deux pays et entre les clubs. L'arrivée du fils Kadhafi. Perugia qui, du coup, maintenant, sur passe actualité, est en série C et quatrième du groupe B, qualifié pour les playoffs, normalement, à moins d'un cataclysme.
Ils sont déjà qualifiés même, hein. Et avant de revenir à l'actualité, on va terminer par le seul, enfin l'un des seuls titres, je pense, remportés par le club. C'était donc cette fameuse Coupe Intertoto en 2003 qu'ils gagnent contre Wolfsburg et qui leur permettent de se qualifier pour la Coupe UEFA, une compétition où ils atteignent quand même les 16e de finale.
Et ils se font sortir en match de barrage contre la Fiorentina et ils perdent leur place dans l'élite.
Ouais, parce que cette année, c'était compliqué et je pense que le fait de disputer la Coupe d'Europe avec un effectif qui n'était pas forcément taillé pour disputer plusieurs compétitions leur a coûté ouais, leur place dans l'élite. Et donc, Pérouse, par la suite, chute un peu et en fait, comme beaucoup de clubs italiens et notamment les clubs de cette division, de la Serie C actuelle, ils font faillite en 2010 et ils doivent repartir en Serie D. Ils mettent 3 ans pour retrouver la Serie B et ils font 6 ans dans cette division avant de refaire l'ascenseur en 2020-2021, mais ils rechutent pratiquement aussitôt puisque 2 ans plus tard, ils retrouvent la série C et sont actuellement dans cette division. Et donc, comme on le disait, ils sont quatrième et déjà qualifiés pour les playoffs. Et ça va être compliqué d'obtenir peut-être leur ticket pour la série B, mais ils ont leur chance.
Voilà, c'était tout pour notre petit focus sur la série C et sur Perugia. On se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas toujours à noter notre podcast, à partager, à proposer si vous voulez des clubs dont vous aimez qu'on parle. Hein. Vous avez le droit aussi de proposer des choses. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. D'ailleurs, vous êtes toujours nombreux à nous parler sur Twitter, sur X, excusez-moi, il faut être moderne, et à répondre à nos sondages et à nos questions. On vous remercie toujours pour ça. Merci Nico.
Merci Antoine, merci de m'avoir accompagné encore une fois et comme l'a parfaitement dit notre merveilleux présentateur du jour, oui, n'hésitez pas à nous soumettre des clubs, on en a déjà fait quelques-uns, on a d'autres idées pour les suivants, mais c'est Pronto Calcio est interactif et on aime bien que vous participiez et faire évoluer ce projet qui grandit petit à petit.
Ciao, ciao Nico. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, a presto.